RFI, minuit 30 à Paris, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir.
L'actualité africaine, c'est avec Arthur Ponchelet. Bonsoir.
Bonsoir Christophe et bonsoir à vous qui nous écoutez. Et c'est au Mali que l'on débute cette édition. Hier et aujourd'hui, plusieurs enlèvements et tentatives d'enlèvement d'hommes politiques ont eu lieu. Certains ont été emmenés par des hommes encagoulés dans des voitures sans plaque d'immatriculation. Le Niger et l'Iran signent un protocole d'accord. Niamey et Téhéran renforcent leur coopération sécuritaire. Clap de fin de la visite d'une délégation iranienne dans la capitale nigérienne. Dans ce journal aussi, Idriss Youssouf Boy, condamné à 5 ans de prison au Tchad. OCHA réduit de moitié ses objectifs humanitaires en RDC. Quand Léon XIV voyageait sur les routes du Haut-Ouélé, on vous raconte le passé congolais du nouveau pape. Et puis de la musique, on écoute le premier EP du trompettiste Milda Myambanzila, 3 titres bouillonnants et un appel à la paix. Le dispositif policier était important, mais la place de l'indépendance de Bamako est restée calme. Aujourd'hui, plusieurs partis politiques devaient se réunir, mais ils ont finalement reporté ce rassemblement après l'annonce mercredi par la transition de la suspension de toutes les activités politiques dans le pays. Pas de rassemblement, donc, David Baché. En revanche, hier et aujourd'hui, plusieurs cas d'enlèvement et de tentatives d'enlèvement d'hommes politiques par la sécurité d'État ont eu lieu.
Oui, El Bachir Thiam, jeune militant du parti Yelema, a été enlevé hier vers 14h à Kati, ville garnison proche de Bamako et fief des militaires au pouvoir. Il se trouvait, selon son entourage, devant la boutique d'un ami lorsque des hommes encagoulés l'ont embarqué dans un véhicule banalisé. Voix critique de la transition, il avait organisé mercredi matin, avant donc la suspension des activités politiques dans le pays, annoncée à la mi-journée, une réunion sur le respect des droits et de la Constitution. Puis vers 19h, cet Alassane Abba, secrétaire général du parti CODEM et vice-président de la coalition Jigi Akura, qui a été enlevé à son domicile à Bamako. Selon ses proches, des hommes armés et encagoulés se réclamant de la gendarmerie l'ont sorti de chez lui avec violence et embarqué dans un véhicule sans plaque d'immatriculation. L'ancien député de Gundam plaidait régulièrement pour le retour à l'ordre constitutionnel dans les médias maliens, sans toutefois jamais appeler à la déstabilisation.
Et dans ces deux cas, David, leurs proches ont fait le tour des commissariats sans trouver trace d'El Bachir Thiam ni d'Alassane Abba.
Mais le mode opératoire des services maliens de renseignement est devenu habituel. Ils sont à la sécurité d'État, confirme à RFI une source sécuritaire malienne qui avertit. Les enlèvements vont continuer. De fait, deux autres tentatives ont été rapportées. Aujourd'hui, des hommes en civil se sont présentés au domicile de Baïssa Koné, président du parti VNDA et également membre de la coalition Jigi Akura, pour l'emmener. Mais selon son entourage, le chef de parti n'était pas chez lui et il se cache depuis. Ibrahima Tamega, membre du parti La Convergence et du collectif des jeunes pour la démocratie, ne doit quant à lui son salut, selon ses proches, qu'à l'intervention déterminée de jeunes qui se trouvaient alentour.
David Baché, eux, avaient été arrêtés dans la nuit de mercredi à jeudi au Niger. 3 journalistes de la radio Sahara FM ont été libérés aujourd'hui. D'après le groupe Aïr Info, ils ont été présentés à un juge. Ils avaient relayé une information publiée par LSI Africa concernant des contrats entre le Niger, la Russie et la Turquie qui, selon le site, aura été rompu. Le Niger renforce sa coopération sécuritaire avec l'Iran. Un protocole d'accord entre les deux pays a été signé hier. Un an après la visite du premier ministre nigérien à Téhéran, une délégation iranienne a passé 2 jours à Niamey. Magali Lagrange, que sait-on de cette visite ?
Lutte contre le terrorisme et la criminalité, contrôle des frontières, les coopérations possibles entre Niamey et Téhéran sont passées en revue, séance de travail autour du ministre nigérien de l'Intérieur, le général Toumba, et du commandant général des forces de l'ordre iranienne. À la clé, la signature d'un protocole d'accord pour de la formation et du partage d'informations, détaille l'agence nigérienne de presse. Ce qui peut intéresser Niamey, ce sont les équipements iraniens, en particulier les drones, explique un chercheur spécialiste du Niger. Pour sa part, Téhéran a selon lui un œil sur l'uranium nigérien. Or, le Niger a besoin d'argent frais, poursuit-il, et plus de 1000 tonnes d'uranium qui n'ont pas pu être exportées sont stockées dans le Nord, produites par la Somaïr, filiale du groupe français Orano, avec qui les relations se sont encore tendues cette semaine. L'an dernier, le premier ministre nigérien s'était rendu à Téhéran. Peu après ce voyage, le Niger avait dénoncé ses accords militaires avec les États-Unis. Alima Aman Laminzen avait alors accusé Washington d'avoir menacé son pays de sanctions en cas d'accord de vente d'uranium à l'Iran, tout en assurant que rien n'avait été signé avec Téhéran.
Magali Lagrange, lui, était à Moscou. Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré, président de transition du Burkina Faso, a assisté à la parade militaire sur la place Rouge pour commémorer la victoire du 9 mai 1945. Plusieurs chefs d'État étaient sur place, parmi eux Nicolas Maduro, son homologue vénézuélien avec qui il s'est entretenu. Au lendemain du renvoi de 5 anciens ministres de Macky Sall devant la Haute Cour de justice au Sénégal, l'Alliance pour la République réagit. Le parti de l'ancien président demande un procès équitable pour ceux poursuivis pour des soupçons de détournement de fonds Covid. Lors d'une conférence de presse, aujourd'hui, Maître Sidik Kaba, ancien Premier ministre, s'est dit serein face à la procédure en cours.
Il y a eu une résolution qui a été prise par l'Assemblée nationale pour leur mise en accusation devant la Haute Cour de justice. C'est une décision grave. La manière dont les choses ont été organisées, il y a eu un lynchage médiatique. Dans le cadre d'un état de droit, il est important de rappeler qu'il y a la présomption d'innocence. Lorsque vous n'avez pas été jugé, lorsque cette décision n'est pas définitive, vous restez présumé innocent. Nous demandons d'une façon claire et nette que cette instruction se fasse dans les règles de l'art, qu'il soit entendu de façon impartiale, de façon indépendante et de façon objective, pour que les faits qui leur sont reprochés soient établis ou non établis, si les charges ne sont pas là, et qu'ils puissent ainsi recouvrer définitivement leur liberté. Nous avons confiance en notre justice.
Propos recueillis en conférence de presse par Brahim Touré. L'APR a aussi annoncé boycotter l'appel au dialogue national prévu le 28 mai, dénonçant, je cite, un revolver pointé sur la tempe et un climat hostile. En Centrafrique, on a appris aujourd'hui l'arrestation du directeur de publication du journal Le Quotidien de Bangui. Landry Ulrich Ngeman Gokpele a été placé en détention hier dans les locaux de la section de recherche et d'investigation. Une délégation de journalistes locaux a pu lui rendre visite ce matin. Il dénonce une détention arbitraire pour des raisons encore incertaines. L'actualité en Centrafrique, c'est aussi cette communication du procureur de la République aujourd'hui après le transfert à Bangui du chef rebelle Armel Sayo. C'était dans la nuit de lundi à mardi. Le chef du groupe Coalition Militaire pour le salut du peuple et le redressement est notamment poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. En cause, une attaque commise par ces hommes contre l'armée en février dernier. Le procureur confirme que plusieurs autres personnes ont été arrêtées en lien avec cette affaire sans en donner le nombre. À l'écoute de Radio France Internationale, 22h38 en temps universel, 50 prisons et 1 million de francs d'amende pour corruption passive. Au Tchad, le verdict est tombé pour Idriss Youssouf Boy. Si le juge a écarté les charges de trafic d'influence et d'abus de fonction, les avocats de l'ancien bras droit de Mahama Idriss Déby annonce poursuivre la bataille et faire appel immédiatement. De son côté, l'homme d'affaires Abou Hakim Bouder, qui avait porté plainte contre Idriss Youssouf Boy, est condamné à la même peine, mais cette fois pour corruption active. Correspondance à N'Djamena, Nadia Ben Mafoud.
Le juge s'est concentré sur les accusations de corruption. De ce point de vue, il a donné droit aux arguments du procureur, selon lequel l'ancien bras droit du président aurait perçu plusieurs milliards de francs CFA de la part de l'homme d'affaires en échange de l'obtention de marchés publics. Mais le verdict ne satisfait personne. Un des avocats d'Abou Hakim Bouder, Maître Ngadad Joum Josué, estime qu'il s'agit d'une mauvaise décision du point de vue juridique. Selon lui, la Cour aurait dû poursuivre aussi le réquisitoire du parquet qui parlait d'argent public usurpé et Idriss Youssouf Boy aurait donc dû être condamné à rembourser directement au trésor public les 11 milliards 800 millions de francs CFA réclamés par Abou Hakim Bouder. De son côté, la défense d'Idriss Youssouf Boy exprime sa surprise. Maître Gerandi Laguerre Dionro dénonce l'absence de preuves matérielles dans le dossier. Selon lui, rien n'atteste que son client a pris de l'argent. Pour l'avocat, cette condamnation est politique. Elle viserait à éloigner Idriss Youssouf Boy du chef de l'État, Mamad Idriss Déby. Nadia Ben Mafoud, N'Djamena, RFI.
Le programme alimentaire mondial alerte sur l'aggravation de la faim en Afrique de l'Ouest et du Centre. Plus de 36 millions de personnes peinent à satisfaire leurs besoins alimentaires, dit le PAM, un chiffre qui pourrait atteindre 52 millions de personnes cet été, pendant la période de soudure. Et alors que les besoins humanitaires sont toujours aussi importants sur le continent, le Bureau des Affaires Humanitaires des Nations Unies a annoncé une baisse de près de la moitié de ses objectifs d'aide en République démocratique du Congo. L'OCHA parle de déficit déficit critique de financement. Patient Ligaudy, derrière cette réduction, il y a bien sûr la suspension de l'aide américaine.
La tendance était déjà inquiétante et elle vient de se confirmer. À la fin du mois d'avril, seuls 9% des fonds demandés avaient été mobilisés. C'est moitié moins que l'année dernière à la même période. La raison principale, la suspension de l'aide américaine. Washington finançait à lui seul 70% du budget humanitaire. Conséquence directe, des secteurs vitaux comme la santé, la sécurité alimentaire ou encore la réponse aux urgences sont aujourd'hui en danger. Et face à cette chute brutale des financements, l'ONU a dû faire des choix. Une liste rouge a été dressée et seules les interventions jugées les plus urgentes seront maintenues. Ce sont des millions de personnes qui risquent ainsi de ne plus recevoir d'aide. L'ONU veut concentrer les efforts sur les plus vulnérables, optimiser l'impact avec ce qui reste. Autre priorité désormais, trouver de nouveaux partenaires. Gouvernement, bailleurs de développement, secteur privé, tous sont sollicités. Et puis cette crise pose aussi la question des responsabilités locales. L'ONU appelle l'État congolais à s'impliquer davantage en apportant un soutien logistique, en facilitant l'accès aux zones touchées et en renforçant la coordination au niveau provincial. Un appui essentiel pour que les humanitaires puissent se concentrer sur les urgences et n'aient pas remplacer les services publics.
Passion Ligaudy, une première messe en anglais et en italien. Léon XIV a prononcé sa première homélie en tant que pape. C'était ce matin, sous les peintures de la chapelle Sixtine, et tout de rouge et de blanc vêtu, il a déploré le recul de la foi au profit de l'argent, du pouvoir et du plaisir. Léon XIV, un pape qui fut le prieur général de l'ordre des Saint-Augustins. C'était entre 2001 et 2013, une fonction qu'il a conduit à plusieurs reprises en Afrique et notamment à Mélitulé en RDC.
À Kinshasa, le révérend père Olivier Gangola, vicaire régional des Augustins du Congo, se souvient des visites de Robert Prévost dans les années 2000. Il a suivi hier, bien sûr, son élection au Vatican.
Une grande surprise qui m'a affecté jusqu'à ce que j'ai commencé à pleurer, parce que je ne m'y attendais pas. Et le voir au balcon, c'était pour nous une grande joie, une émotion impossible.
En 2010, le père Michel Mivunguba Kanerou avait accompagné celui qui allait devenir pape jusqu'au diocèse de Dungu, dans le Haut-Touélé. Plus de 2000 kilomètres parcourus depuis Kinshasa, en avion d'abord, puis sur des routes non bitumées.
Il a voulu faire l'expérience, ce que nous avons fait. Il a pris les moyens de déplacement que nous, on utilise là-bas, les véhicules. Mais les conditions de voyage à cause de la route aussi très difficiles, il les a acceptées. Il a logé dans les conditions que nous lui avons préparées. Il a mangé tout ce que nous avons mangé là-bas. Il n'a pas exigé autre chose.
À Dungu, près de la frontière avec le Soudan du Sud, vit toujours une communauté augustinienne de 7 frères, dont le père, Blaise Mbikoyezou.
Sa simplicité nous a touchés parce que quand il est arrivé, nous qui étions encore petits, j'avais 17 ans, pré-novice, bien qu'il parlait beaucoup plus l'anglais, mais le peu de français qu'il connaissait, voilà, il essayait un peu de savoir comment on s'est porté, quelles étaient nos motivations. Quelqu'un qui n'a pas de limites, qui peut entrer facilement dans le monde non seulement des grands, mais aussi des plus petits.
Le père Blaise, qui verrait bien le centre de formation professionnelle tenu par les frères augustiniens de Dungu, bientôt baptisé Centre Léon XIV.
Voilà l'émotion, le souvenir et l'espoir des fidèles qui ont croisé la route du pape Léon XIV en RDC. L'évêque de Mbujimayi, dans le Kasaï, dans le centre sud de la RDC, lui aussi a rencontré le nouveau pape avant qu'il soit élu. Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda Mulenga raconte comment il a accueilli l'annonce hier soir de l'élection de Léon 14.
Avec beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse, nous avons quand même maintenant un pasteur à la tête de notre Église pour vraiment gouverner et surtout cristalliser l'unité des chrétiens. Et ça, c'est très important pour nous. Ça m'a fait beaucoup de joie.
Cette élection du pape correspond-elle à vos attentes?
Tout à fait. L'Esprit Saint a bien soufflé. Le pape choisit le nom en rapport avec son prédécesseur qui est Léon XIII et qui nous indique déjà sa mission. Il va rechercher l'unité. Il va nous demander de regarder surtout les pauvres et les déshérités. Tout cela est résumé dans ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, que Léon XIII, son prédécesseur, nous a laissé, qui fait pour nous le grand pilier de notre mission par rapport à la société. C'est très important. Il a parlé même des ponts. C'est justement établir des dialogues, même avec des personnes qui ne croient pas comme nous, mais qui peuvent quelque part comprendre qu'on peut se retrouver sur la dimension humaine, la dignité humaine. Et là, donc, le pape est pour nous vraiment un éclaireur, une référence pour chez nous.
Quels sont, selon vous, les principaux défis qui l'attendent, ce nouveau pape?
Les défis, il y en a au niveau de notre Afrique et au niveau mondial. Au niveau de l'Afrique, par exemple, S'il est dans les sillages de François, le pape l'a dit sans honte et sans peur, ôtez vos mains de la RDC et de l'Afrique. Donc là, le pape est appelé à combattre la pauvreté, le sous-développement, les pillages des ressources naturelles. Ça va de pair aussi avec les conflits interethniques et les luttes armées. Et au niveau du monde, là, on voit, il y a des problèmes en rapport avec ce que je peux dire, la décléricalisation de l'Église. Comme le pape l'a dit, le pape François, on parle des abus sexuels au sein du clergé catholique. Tout cela, ce sont là pour nous des questions que le pape aura à résoudre. Pour nous, le plus essentiel, c'est de voir ce pape ici parler aux grands pour qu'ils tiennent compte des petits et des oubliés. La fin de la guerre, la paix, ce sont là des défis réels auxquels on aura à faire face.
Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda Moulenga avec Amélie Tullet pour toutes les réactions à l'élection de Léon XIV. Rendez-vous sur notre site rfi.fr où l'on parle aussi des défis et du détail des prochains jours qui attendent le nouveau souverain pontife. En plus bref, dans l'actualité africaine, l'ONG African Parks a reconnu aujourd'hui des violations des droits humains au Congo. En janvier 2024, la presse britannique et l'ONG Survival International révélait des violences, y compris sexuelles, commises par des gardes de l'ONG sur des membres du peuple Baka. Nous regretterons profondément la douleur et la souffrance causées aux victimes, a dit African Parks dans un court communiqué. Et puis l'Afrique du Sud fait part de sa préoccupation après des révélations de médias américains. Aujourd'hui, selon eux, dès la semaine prochaine, Washington accueillera des Afrikaners que Donald Trump dit persécutés dans le pays. Les allégations de discrimination ne sont pas fondé, assure Pretoria, qui précise que le gouvernement n'empêchera pas les Sud-Africains voulant quitter le pays de le faire. Il y a urgence à protéger le patrimoine culturel en Afrique. C'est l'UNESCO qui le dit. Moins de 12% des sites inscrits à son patrimoine mondial sont africains. La protection de la culture sur le continent est d'ailleurs au cœur d'une rencontre cette semaine au Kenya, la conférence internationale sur le patrimoine culturel en Afrique. Pour Lazar Elundu, directeur du patrimoine mondial de l'UNESCO, l'une des priorités, c'est la protection du patrimoine en zone de conflit.
L'UNESCO est présent dans toutes les zones où le patrimoine est menacé à cause des conflits au Soudan, au Mali. Nous avons une stratégie et une expérience prouvée, comme nous l'avons fait à Mossoul pour reconstruire le patrimoine. Et aujourd'hui, au Soudan, où les biens culturels sont volés, nous sommes présents, nous formons les professionnels à la sauvegarde de ces biens à mettre en place des mesures d'urgence pour les sauvegarder. Il y a aujourd'hui des défis, les conflits armés, le changement climatique, où on voit des feux de forêt. Nous expliquons à tous les pays, le patrimoine aujourd'hui joue un rôle important dans le développement local et aussi dans l'appropriation historique des États, parce que ce patrimoine raconte l'histoire. Quand on protège son patrimoine, on est fier de partager cette histoire avec tous les autres dans le monde entier.
Le directeur du patrimoine mondial de l'UNESCO avec Guillaume Thibault. Il était l'invité d'Afrique Midi tout à l'heure. Entretien à réécouter en intégralité sur l'application RFI Pure Radio. Du sport, avant de refermer ce journal, on part à la rencontre d'Israël Mada. Souvenez-vous, c'était il y a presque un an. Cet archer était porte-drapeau du Tchad aux Jeux Olympiques de Paris. Une première pour lui. Même s'il a été éliminé dès le premier tour, il rêve de se qualifier à nouveau pour Los Angeles en 2028. Il veut aussi désormais transmettre et initier de plus en plus de jeunes au tir à l'arc. Reportage à Toukra, près de N'Djamena, Nestay Amgoto.
Casquette vissée sur la tête, Israël Mada montre l'exemple à ses poulains.
Tu vas faire, tu travailles, mais tu comptes, ça compte pas pour toi.
6
Allez. C'est la fée de moi qui leur apprend à tendre l'arc, viser juste et surtout croire en eux. À 37 ans, le champion d'Afrique des tirs à l'arc tourne une page après une contre-performance aux Jeux de Paris 2024. Mais à Toukra, un autre défi l'attend. Transmettre.
L'idée, c'est après au moins arriver à organiser une compétition pour ces enfants. Au moins qu'on puisse quand même tirer, ne serait-ce que même quelques archers, afin qu'ils puissent quand même intégrer aussi l'équipe nationale.
Avec les moyens du bord, sur un terrain poussiéreux, ils forment une poignée d'enfants. passionné d'une discipline encore méconnue au pays de Sao. Son rêve, qu'un jour, l'un de ses protégés fasse retentir la Tchadienne sur un podium olympique.
Ils sont encore des pépinières, mais il va falloir absolument préparer les Jeux olympiques parce que les Jeux olympiques, c'est pas donné.
Israël Mada vise encore les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 avec l'espoir en ligne de mire. Nestayam Goto, Djamena, RFI.
L'actualité sportive sur le continent, c'est aussi l'Algérie qui se qualifie pour le CHAN. Victoire 3-0 contre la Gambie au match retour. Les Fenech, finalistes de la dernière édition, rejoignent le groupe C où ils croiseront l'Ouganda, le Niger et la Guinée. Rendez-vous dimanche pour connaître le dernier qualifié. Le Malawi affrontera l'Afrique du Sud. Du basket aussi ce soir et le tirage au sort de l'Afro Basket 2025. À noter un groupe B très relevé avec les Tunisiens tenant du titre et Madagascar, le Nigeria et le Cameroun. Les finalistes ivoiriens, eux, seront opposés au Cap-Vert, au Rwanda et à la RDC. L'afro-basket masculin, ce sera du 12 au 24 août prochain.
RFI, toute l'actualité, Arthur Ponchelet.
22h51 en temps universel. Dans le reste de l'actualité internationale, les dirigeants français, allemands, britanniques et polonais en visite à Kiev demain. Ils sont dans le train, en route pour la capitale ukrainienne. Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer et Donald Tusk appellent d'une même voix à un cessez-le-feu complet et inconditionnel de 30 jours en Ukraine. Réponse symbolique des dirigeants européens au lendemain d'une démonstration de force diplomatique de Moscou lors des commémorations des 80 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie. Nous intensifierons notre pression sur la machine de guerre russe, écrivent-ils dans un communiqué. Israël ne participera pas au plan américain de distribution d'aide alimentaire à Gaza. Déclaration tout à l'heure des États-Unis. Depuis deux mois, l'État hébreu empêche toute aide d'entrer dans l'enclave. Sur place, les Gazaouis manquent de tout et la situation est catastrophique. L'ONU et plusieurs ONG alertent sur les pénuries et la famine. Nouvel échange de tirs entre l'Inde et le Pakistan. Ce soir, l'armée pakistanaise accuse son voisin d'avoir tiré des missiles sur trois de ses bases aériennes, dont l'une aux portes d'Islamabad. Les deux puissances militaires s'affrontent en ce moment dans ce qui est la plus grave confrontation militaire entre les deux pays depuis 20 ans. En France, le meurtrier d'Aboubacar Cissé, mis en examen et écroué, le jeune Malien avait été assassiné dans une mosquée du sud de la France au début du mois. Son meurtrier a donc été mis en examen pour assassinat à raison de la race ou de la religion. Et puis le gouvernement américain, bientôt à court de liquidités au mois d'août, c'est ce que dit le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, dans une lettre adressée au président de la Chambre des représentants, le républicain Mike Johnson, le secrétaire au Trésor l'a invité à voter un texte pour éviter ce manque de liquidités. Montrer la diversité et la richesse du cinéma nigérian, c'est l'objectif de la Nollywood Week, ce festival dédié aux films du Nigeria. Ça se passe jusqu'à dimanche à Paris. La réalisatrice et actrice Aïssa Maïga est la marraine de cette 12e édition qui met en avant, entre autres Ouda Ibrahim, la lutte contre la corruption.
Le travail de la police, ce n'est pas ça, mais il y a de la mauvaise graine dans toutes les professions, répond un chef policier à son subordonné dans le film « La nuit du 7 juin » du réalisateur Tokamak Baror, qui traite de la corruption au sein de la police nigériane en se basant sur une histoire vraie. Autre film pour Amina, qui en plus de montrer une femme extraordinaire, s'attaque à la corruption en milieu éducatif. Bikia Graham Douglas, productrice et actrice qui tient le rôle principal.
It's about accountability.
Le film pour Amina parle de la responsabilité. Nous y voyons une mère qui lutte contre un système corrompu pour que sa fille ait accès à l'éducation comme il se doit. Il s'agit d'une femme presque illettrée et qui n'a pas de pouvoir. Mais elle utilise le pouvoir des médias pour avoir des réponses du gouvernement. Et donc cette histoire raconte comment nous devrions faire pour responsabiliser les autorités afin de s'assurer que nous construisions une société meilleure. Tout cela se fait à travers le prisme d'une relation mère-fille pour que cette fille ait une bonne éducation.
Nollywood Week montre également des sujets plus complexes, comme dans le film Out in the Darkness de Sara Kwaji, réalisatrice et scénariste.
In Nigeria and also globally.
Au Nigeria et dans le reste du monde, la santé mentale des femmes, en particulier les problèmes comme la dépression postpartum, a été négligée et rejetée. Elle est largement incomprise. J'ai donc décidé de donner de la visibilité à ce sujet pour combler ce vide narratif qui a désespérément besoin de plus de sensibilité et de compassion.
Avec la nouvelle génération, le cinéma de Nollywood connaît des transformations profondes. Tierno Ibrahima Dia, critique de cinéma.
Ce cinéma a été très dans les genres fantastiques, horreur, et maintenant elle tend à revenir vers une analyse de la société et par le cinéma interroger les rapports qui existent dans cette société. Et donc ce cinéma-là travaille à traduire les réalités, un retour vers plus d'ancrage et moins de cette tendance très Nollywood qu'on connaissait au début.
Nollywood, cette industrie très jeune, est aujourd'hui touchée par la crise économique que traverse le Nigeria.
Ouda Ibrahim, rendez-vous donc jusqu'à dimanche au cinéma L'Arlequin. C'est dans le 6e arrondissement de Paris pour la Nollywood Week.
RFI, les voix du monde.
Bientôt 23h en temps universel de la musique avant de refermer cette édition d'Afrique Soir. On part au Sénégal à la découverte du premier EP du trompettiste congolais Milda Myombanzila. Il est installé à Dakar. Son EP s'appelle Lumière intérieure et Juliette Dubois l'a écouté pour nous.
Sur Lumière intérieure, Milda Myombanzila, trompettiste, chanteur, compositeur, chante en lari, la langue de son enfance, mais il se nourrit de tous les styles qu'il aime, comme le highlife ghanéen et l'afrobeat nigérian sur le titre Nguila. Installé à Dakar, il s'est entouré d'un pianiste béninois, Jean Mermoz, d'un batteur togolais et d'un guitariste congolais pour créer son groupe Fusion Congo. Chacun lui a fait découvrir des rythmiques qu'il a intégrées dans ses créations, comme sur le titre « Paix dans le monde ».
La rythmique, c'est une rythmique très complexe du Bénin. Et d'ailleurs même, c'est l'un des rythmiques qui vient du vaudou. Donc j'ai fait des recherches à travers mon frère Jean Mermoz quand j'ai écouté. Ça m'a parlé tout de suite parce que ça respirait tellement l'Afrique, ça respirait tellement nos danses traditionnelles et tout.
Résultat, un EP au message de paix et de courage composé de 3 titres entraînants. Du Congo-Brazzaville, il a récupéré des rythmiques de la région du Poul et du Sénégal où il vit depuis 2019, il pioche du côté des sabars, les percussions traditionnelles.
Là, je me suis inspiré des sabars, un jeu de sabars qui fait takata, 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 takata. C'est dans des petits détails comme ça qu'on s'inspire. Par exemple, je peux prendre une logique d'une percussion et moi je la ramène et je la bouillonne bien avec la trompette.
Milda a découvert la trompette en jouant dans la fanfare de l'armée du salut à Brazzaville. Il en garde une certaine rigueur.
Je bénéficie beaucoup des qualités dans mon jeu à la trompette que j'ai reçue à l'armée de salut. Par exemple, au niveau de son, la précision que j'ai, parce que j'ai été fanfariste, et là-bas, ils sont tellement sévères avec ça que j'étais obligé vraiment de suivre la ligne. Aujourd'hui, j'en profite.
Lumière intérieure est un EP bouillonnant qui fait bouger, comme Milda lors de ses concerts dans la capitale sénégalaise. Le musicien s'est autoproduit pour cet EP, mais aimerait désormais travailler avec une maison de production et des tourneurs pour faire découvrir son Fusion Congo partout dans le monde. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Baku inabungu mayela menaku
Voilà, Lumière intérieure, le premier repas du trompettiste congolais Milda Myombonzila pour refermer cette troisième et dernière édition d'Afrique Soir. Merci à Olivier Roux, Sabine Mellet et Simon Builbaudin aux manettes d'Afrique Soir ce soir. Merci à vous surtout de votre fidélité. L'actualité africaine revient demain, Afrique Matin 3h30, temps universel, ce sera avec Nemo en Peace. D'ici là, restez bien avec nous dans une poignée de secondes, un nouveau journal sur RFI.